Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Il va en reprendre notre souffle. Merci de nous retrouver. Si vous êtes en train de courir après un lapin d'1m30.
Si vous êtes là depuis le début de l'émission.
Il y aura Eva Rock pour son Zapping du lendemain, spécial Redard Bertrand Chamerois.
Bonjour.
Qui va parler de cuisine et de télé-réalité. Laurent Gounel, notre invité, l'écrivain pour son nouveau thriller basé sur nos intuitions. Hélène Manarino sera là évidemment pour le portrait inattendu et puis dans les indispensables. Une expérience psychanalytique à travers une série d'entretiens. Et Baroque de retour avec nous et Margot Barallon aussi.
C'est moi, c'est vrai.
Oui, voilà.
On reprend notre sérieux.
Bonjour Eva Rock.
Bonjour Philippe, bonjour
à tous. Ah, là, là. Bonjour Bertrand Chamerois.
Bonjour Philippe.
C'est l'heure Bertrand de votre écran de veille et ce matin vous nous parlez gastronomie.
Et ouais, hier j'ai regardé des personnalités se réunir dans un appartement pour dîner. Non, ce n'était pas un reportage sur Pierre-Jean Chalençon, mais un dîner presque parfait sur W9. Attention, pas n'importe quelle édition, le sacrifice est total. J'ai regardé le crossover.
Bonsoir et bienvenue dans un dîner presque parfait spécial Love Story. Cette semaine de compétition sera donc l'occasion de célébrer les 20 ans du Loft.
Ah, le combo.
Une spéciale 20 ans du Loft. Enfin, il était temps que quelqu'un se charge de célébrer l'événement, non? Parce que jusqu'ici, à part les 20 ans de la télé-réalité sur TMC le 7 avril, Love Story 20 ans après sur C8 le 8 avril, le débrief de Love Story 20 ans après sur C8 dans TPMP le 9 avril et les 20 ans de la télé-réalité rediffusion demain sur TMC. À part ça, on n'avait pas trop entendu parler de l'anniversaire du Loft. Donc c'est une bonne chose que W9 s'en charge. Retour à un dîner presque parfait, donc, outre les lofters, est également présent lors de cette semaine spéciale.
Benjamin Castaldi, l'animateur star du Loft, dont la langue est aussi aiguisée que le palais.
Benjamin Castaldi qui était donc hier en concurrence avec lui-même sur 3 canaux différents puisqu'il était simultanément sur W9 dans le dîner, sur C8 pour 6 à 7 avec Casta et sur Energy 12 dans la pub Comme J'aime, dont d'ubiquité, c'est très très fort. Premier candidat de la semaine, Stevie, qui pour étonner ses convives a décidé de cuisiner du chou. Oui, du chou. Il n'en fallait pas plus à la voix off, mon Miguel, pour s'élancer à 230 sans ceinture sur l'autoroute du jeu de mots.
C'est vrai, si avec ça, c'est pas vous le chouchou de la semaine, on n'y comprend plus rien. Bon alors jusqu'ici, c'est bête comme chou. Oui, alors faudrait pas que votre dîner fasse chou blanc pour une vulgaire histoire de chou. Pas besoin de se prendre le chou plus que ça.
Ah ouais.
Ah, bon. Il aurait aussi pu faire chou devant.
Oh,
ah, j'adore l'humour. Ces retrouvailles entre lofters, c'est l'occasion de se remémorer de bons souvenirs, de rire ensemble, mais aussi de faire des clins d'œil à ceux qui ne participent pas à cette semaine spéciale comme Kenza, Laure ou Loana. Loana à qui Benjamin Castaldi a rendu un vibrant hommage, instant poésie.
Moi, quand j'ai vu Loana le premier jour, je me suis dit où est-ce que j'ai atterri. Pareil. Parce que le short à la moule qu'elle avait, franchement, voilà.
Voilà, oui, non, on va pas plus loin. Un autre hommage chic, peut-être. Ah, on me dit que Fabrice en a un.
Faut reconnaître que c'était quand même, c'est une femme avec certains attributs. Tous les mecs, quelque part, ils ont dû penser à un moment ou un autre, peut-être à Loana.
Que veux-tu dire par là, Ordo? On est tous d'accord sur le sens de la phrase. Ok, un dîner placé sous le signe du compliment élégant, donc à l'anglaise. Bon, en tout cas, cette semaine spéciale est l'occasion de se rendre compte que niveau calcul, ça va mieux chez W9. 2001-2021, ça fait 20 ans pile poil. Non, je dis ça parce que mercredi, ils diffusent ça.
Bon anniversaire, 950.
Mercredi, 21h05 sur W9, les 30 ans du Top 50, volume 2.
Philippe, c'est pas vous qui me contredirez, le Top 50 a été créé en novembre 84 au lancement de Canal, donc il devrait célébrer les 36 ans du Top, et encore ça n'aurait pas de sens puisqu'on n'est pas en novembre, mais c'est le problème des rediffs quoi, quand tu zappes sur W9 c'est un jour sans fin.
Un soir
sur deux il y a Émile et Images qui chantent les démons de minuit, ça fait 12 piges qui fêtent les 30 ans du Top 50 sur W9, alors ça coûte pas cher c'est sûr, mais pour le public c'est un suspense permanent. Quand ils annoncent un match des Bleus par exemple, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. L'autre jour je me suis fait avoir, j'avais ouvert une bière, j'étais peinard, je me pose dans mon canapé prêt à vivre. Et là, paf, Vincent Candela et Footix. Bah, c'était une revue. Bah, ceci dit, ce serait cool hein, si c'était pareil dans la vraie vie, rester bloqué au même âge tout le temps. Allez, puisque c'est comme ça, ran à foot, on se la joue comme W9. Demain, événement sur Europe 1. Surprise, émotion et souvenir, un culture média exceptionnel à l'occasion des 35 ans de Philippe Vandel. Comment réagira-t-il à son portrait inattendu dressé par Hélène Manarino? Réponse demain, dès 9h, pour les 35 ans de Philippe Vandel sur Europe 1.
Merci Bertrand Chamois.
Tant qu'on reste pas bloqué à 2020.
Ouais. Ouais. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Eva.
Non,
vous
l'évoquez.
Oui, non, mais c'était parce que. Non, mais vous aviez compris. C'était Covid,
la
tout
pandémie.
Ça. Mais oui.
La pandémie, voilà. Le confinement, il y en a un qui suit. Eva, vous vouliez évoquer un doc événement diffusé ce soir sur France 5.
Oui, on va gagner un peu en sérieux. Titre du film de ce soir, Salvatore Mundi, la stupéfiante affaire du dernier Vinci. Et il n'y a pas tromperie sur la marchandise avec ce texte, avec ce titre. Aux yeux du monde, l'histoire débute en novembre 2017 chez Christie's. Une vente aux enchères d'un tableau qui s'achève par des applaudissements. Alors tendez bien l'oreille et écoutez la somme.
À Christie's, $400 million is the bid and the piece is sold.
400 millions de dollars, auxquels wow. Il faut ajouter une petite commission de 50 millions. Jamais un tableau n'avait été vendu aussi cher. Il s'agit donc du Salvatore Mundi, auteur de l'œuvre. Eh bien, mystère. La toile a été achetée en 2005 par un marchand new-yorkais, alors pour un millier de dollars, vraiment une petite somme. Il a fait restaurer, l'étudie et pense qu'il s'agit d'une œuvre de Léonard de Vinci. Le conservatoire de la National Gallery à Londres envisage alors de l'exposer. Encore faut-il s'assurer qu'évidemment, de Vinci en est bien l'auteur. Quelques experts observent ce Christ. Un seul est convaincu, les autres ne se prononcent pas. Qu'importe, le conservateur décide de l'attribuer à Vinci. À la surprise d'un chercheur historien.
La manière dont elle a été attribuée a été très restreinte, avec seulement quelques personnes. Ça ressemble à une manœuvre délibérée. C'est tout à fait inhabituel.
Oui, à Londres, on est allé un peu vite en besogne, hein, mais qu'importe, on a décidé que c'était une œuvre de De Vinci. Quelques mois plus tard, la toile est achetée dans des conditions rocambolesques par un oligarque russe, propriétaire du club de foot de Monaco, 127 millions de dollars, puis donc revendue. 400 millions de dollars, 4 ans plus tard, le dernier acheteur s'appelle Mohamed Ben Salman, dit MBS, le prince héritier saoudien. Un prince qui verrait bien son tableau au Louvre dans le cadre d'une grande expo sur De Vinci qui se prépare. Sauf que dans les entrailles du musée parisien et dans le plus grand secret, l'œuvre est analysée, verdict d'un haut fonctionnaire témoignant anonymement.
L'expertise scientifique a permis de démontrer que Léonard n'a fait que contribuer à ce tableau. Il n'y a pas de doute. Donc on en a informé les Saoudiens.
Alors, sauf que les Saoudiens insistent pour que le tableau soit exposé avec la mention « œuvre de Léonard de Vinci », le Salvatore Mundi devient un objet diplomatique et une affaire d'État.
L'exposer aux conditions saoudiennes, ce serait du blanchiment d'une œuvre de 450 millions de dollars. À la fin du mois de septembre 2019, le président Macron a tranché. Il a été décidé de ne pas donner suite à la demande de MBS et il a laissé notre ministre de la Culture se débrouiller.
Et voilà, et au bout du compte, on ne sait toujours pas de qui est cette toile, on ne sait pas où elle se trouve non plus, mais elle vient de donner naissance à une œuvre, ce documentaire d'Antoine Victine, qui sera d'ailleurs l'invité de Patrick Cohen à 12h30, et c'est à voir absolument dès 20h50 sur France 5.
Merci beaucoup Eva Roque, à tout à l'heure pour votre indispensable, vous voulez dire quelque chose?
Oui, il m'est arrivé à peu près la même chose, j'ai acheté un parking, on m'avait garanti que c'était un Vinci, mais rien à voir avec le peintre.
Merci Bertrand Chamerois. À demain, dans un instant, notre invité Laurent Gounelle, l'écrivain, mais d'abord musique, Arlo Parks.
Fight between an artsy couple escalate. Strawberry cheeks flush with defeated rage. Then he spilled his coffee as he frantically explained. Maybe if you took a started screaming. I'm not afraid to die.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vondel.
Bonjour Laurent Gounel.
Bonjour Philippe.
Vous êtes écrivain, mais également auteur de conférences, vous êtes surtout écrivain, vous êtes parfois présenté comme écrivain psychologue, l'un des auteurs français qui vendent le plus de livres, plusieurs best-sellers que je peux citer, L'homme qui voulait être heureux, c'était le premier, Les dieux voyagent toujours incognito, Le philosophe qui n'était pas sage, ou le dernier, Je te promets la liberté. Tous se sont vendus à plus de 200 000 exemplaires, parfois traduits dans 24, 25, 26, 29 langues, et là vous publiez votre huitième livre. C'est pas un roman feel-good autour du bien-être et de la réalisation de soi, mais un thriller, il s'appelle Intuitio, le premier. Je ne sais pas comment on prononçait les latins et les romains. C'est chez Calman Levy. Quel est le point de départ? Il y en a plusieurs. D'abord, le héros. Qui est-il? Que lui arrive-t-il? Timothy Fisher.
Timothy Fisher est un jeune auteur de polar new-yorkais qui mène une petite vie tranquille dans le Queens à New York avec son chat. Et un jour, deux agents du FBI sonnent à sa porte et lui proposent de venir les aider à identifier l'homme le plus recherché du pays, enfin un criminel. Alors, il croit une blague au début, sauf qu'il précise un peu leur demande qui est de l'inviter à rejoindre un programme secret visant à développer l'intuition afin d'utiliser sa propre intuition pour localiser le criminel.
Alors, dit comme ça, on se dit c'est une élucubration totale, mais tout part d'une rencontre que vous racontez à la fin du livre. Un jour, après une conférence, il y a un inconnu qui vient vous voir et qui vous propose une expérience assez extraordinaire. Il s'appelle Alexis Campion, vous lui dédiez ce livre. Que vous propose-t-il? Que faites-vous avec lui?
Alors Alexis Campion, en effet, vient me voir, moi je ne le connais
champion,
pas.
C'est champion, un inconnu, je dis Campion, champion.
Vous en faites pas. Et donc il me propose, moi je ne le connais pas, c'est la première fois de ma vie que je le vois, et il me dit, venez passer trois jours avec moi et je vous forme au remote viewing. J'en avais entendu parler, hein, littéralement visualisation à distance. Je savais que c'était un programme développé par les Américains et dont les premières recherches remontent du temps de la guerre froide. Hein, l'idée pour les Américains était de pouvoir localiser des cibles stratégiques parce qu'ils savaient que les Soviétiques faisaient de même. Ils investissaient l'équivalent en roubles de millions de dollars dans des recherches sur l'intuition et le paranormal. Quoi. Donc les Américains ne voulaient pas se laisser distancer. Quoi. Et donc Alexis Campion, lui, s'est formé aux États-Unis auprès d'anciens de la CIA, d'anciens militaires qui travaillaient sur ce projet pendant des années. Et donc a rapporté cette méthode en France et m'a formé à cette
méthode. Alors concrètement, que vous fait-il faire, puisqu'on a compris quand on lit le roman que ce qui vous a fait faire, c'est ce qu'Anna fait faire, cette fille du FBI, et cet agent du FBI fait faire au narrateur.
Alors la méthode, elle est à la fois très, très rigoureuse et très, très structurée et en même temps très bizarre. C'est-à-dire par exemple, on va étudier les mouvements automatiques de la main quand on se connecte à l'information qu'on cherche à identifier. Donc notre main, on va la laisser faire des mouvements automatiques sur une feuille de papier, donc elle va faire des gribouillis et on va analyser ensuite ces gribouillis pour essayer de repérer un certain nombre de choses. Et petit à petit, on va laisser des sensations venir à nous, on va laisser des sons, des odeurs, toutes sortes de ressentis et de perceptions finalement sensorielles. On va noter tout ça et petit à petit les choses vont se préciser et on va capter des informations soit sur un lieu, soit sur un événement, soit sur des personnes.
Attendez, ça va même beaucoup plus loin et c'est là où c'est vraiment saisissant parce que vous n'auriez pas écrit ce livre-là si vous n'aviez pas vécu cette expérience préalablement. Elle donne une série de chiffres et le héros fait des dessins, une sorte de gribouillis. Et peu à peu, elle dit voilà ce que je vois du gris, je vois un peu de rose, je vois de la pluie. Je vois un monument, je vois de la pierre, je vois comme idée, je vois la liberté, je vois des choses comme ça, je vois une lumière en haut. Et elle dit, regardez, dans l'enveloppe, là, il y a une photo. Et la photo, c'est la photo de la statue de la liberté sous la pluie. C'est totalement saisissant et c'est ce que vous avez vécu quand il vous a fait l'expérience Alexis Campion.
Tout à fait, je l'ai fait à plusieurs reprises. Alors au début pendant trois jours et puis ensuite quand j'ai décidé d'écrire ce roman, je suis retourné me former un certain nombre de jours de plus, enfin en tout 10 ou 12 jours. Quoi. Ouais. Et ça va très très loin puisqu'on peut même capter des émotions qu'avaient des personnes à une autre époque, non seulement dans un autre lieu mais à une autre époque.
Alors ce qui est très drôle c'est qu'il y a même la réserve qu'émet le lecteur émise par Timothy pendant que l'agent du FBI lui explique le pouvoir de l'intuition, le narrateur se dit dans sa tête, oui c'est ça, pour moi pour un con. Et alors page 184, moi qui ai une petite mini formation scientifique, vous racontez une expérience de physique dont j'ignorais l'existence, qui fait vraiment réfléchir, l'expérience sur le temps du physicien John Wheeler, qui est pas n'importe qui, c'est le père de la bombe nucléaire à hydrogène. Qu'a-t-il découvert?
Tout à fait. Eh bien, en fait, il a découvert qu'on pouvait avoir un impact sur la trajectoire passée d'un photon, c'est-à-dire en fait d'une particule élémentaire. C'est-à-dire en fait, on peut créer une expérience qui va modifier la trajectoire passée de cette particule.
C'est-à-dire qu'on peut agir sur le temps.
On peut agir
sur un photon. J'explique. Un photon qui avait cette trajectoire, si on fait une expérience sur lui, finalement, quand on regarde ce qu'il a fait précédemment, il avait fait autre chose.
Tout à fait. Et en fait, c'est ça qui est dingue avec l'intuition, c'est qu'on se rend compte que notre conscience, finalement, ou notre âme, ou notre esprit, on ne sait même pas comment le qualifier, peut se déplacer dans le temps pour accéder à des informations passées, mais aussi à des informations futures, ce qui est encore plus dérangeant.
Vous croyez aux coïncidences ou pas du tout? Est-ce que c'est la même chose?
Moi, j'ai comme vous une culture scientifique à l'origine, donc moi je suis très cartésien, donc quand il y a une coïncidence, même si je disais c'est de l'intuition, jusqu'à présent je disais c'est le hasard.
Je veux dire, votre héros est absolument passionné par les oursons au chocolat en guimauve, c'est la première fois que je vois ça dans un livre, et hier on recevait Joe Starr, le rappeur, et c'est la première fois qu'Hélène Manarino offre un cadeau à un invité. C'était des oursons au chocolat en guimauve. Hélène Manarino, le portrait inattendu, ça arrive tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Laurent Gounel, Intuitio, ça veut dire intuition en latin, c'est chez Calman Levy, son nouveau roman. Et on parlait d'intuition, et on parlait des petits nounours en chocolat et en guimauve. Bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel.
Vous en avez
bonjour
offert
à tous.
Hier mais à Joe Starr. Il y en a dans le livre de Laurent Gounel que nous n'avions lu, ni vous ni moi, à la date d'hier où vous avez écrit votre texte.
C'est vrai. Ce portrait va être, vous allez voir, il y a plein de surprises.
Bonjour, il va être Laurent. Inattendu, non, j'espère.
Ben, j'espère, c'est le but.
C'est à vous.
Bonjour Laurent Gounel, je suis là pour dévoiler presque toutes les choses que l'on ne connaît pas encore de vous. Alors, mon gars, comme vous appelez votre maman petit, vous définissez comme un idéaliste qui caresse l'espoir qu'un jour tous les hommes soient heureux. Mais avant cela, vous avez construit votre bonheur et c'est le vôtre que l'on va raconter ce matin. Commençons par l'enfance, par votre sagesse, pas de bêtises à signaler. Un bébé qui avait surtout besoin d'être rassasié. C'est simple, âgé de quelques mois seulement, vous mangiez tellement qu'il fallait vous donner à manger avec deux cuillères. Ça allait plus vite, évidemment, et on évitait de vous faire hurler. Oui. La tranquillité, surtout, enfant bricoleur, vous aimiez bidouiller des petits moteurs, vous aimiez être chez vous, à tel point que quand votre maman vous a emmené à la maternelle pour la première fois, vous avez tellement pleuré qu'elle n'a pas eu le courage de vous laisser. Donc vous avez fait toutes vos années de maternelle avec elle, chez vous. Eh bien oui, on est mieux chez soi, jamais sans votre doudou, votre petit chien, Wawa, que vous avez perdu en vacances d'ailleurs.
Mais comment vous savez ça?
C'est ça l'intuition.
Ah oui, grande intuition. Vous aviez aussi un petit chat qui s'appelait Pacha parce que c'était un chat chien. Il était très autonome, vous l'emmeniez partout, notamment en vacances, à Val d'Isère, et pendant que vous partiez sur les pistes, eh ben, il faisait sa randonnée tout seul.
C'est vrai. J'oserais plus aujourd'hui lâcher mes chats comme ça, mais c'est vrai, ils nous suivaient partout.
Le chat qui fait sa rando, n'importe quoi. Hélène.
Vous pourriez aussi. Parce que j'imagine un chat faire une rando.
Mais ouais.
Alors voilà, donc ça me fait rire.
En moonboot.
Vous pouviez aussi le laisser se balader en pleine forêt. Alors Laurent Gounel, votre épanouissement, il existait aussi avec les animaux. Tous vous aimiez avec votre maman récupérer les animaux abandonnés pour leur trouver une famille. Et un jour, vous êtes d'ailleurs revenu avec un oisillon, un petit pinson blessé. Et vous avez décidé de le garder, vous l'avez élevé et il s'appelait d'ailleurs Piu-Piu.
C'est exact.
Optimiste dans tout, vous étiez aussi aventurier, joué au détective dans le local poubelle.
Ah, c'est sympa. Hein.
Ou au jeu de la ville de Paris avec vos deux amis belges, mais surtout faire du vélo avec le vôtre. Il avait une particularité, il n'avait pas de frein. Alors pour freiner, il fallait rétro-pédaler, sauf qu'en plein hiver, vous avez fait du vélo donc sans frein et vous avez foncé dans le bassin du parc de Sceaux malgré vous. Et l'eau était gelée, évidemment. Et puis il y avait aussi le skatepark à Bourg-la-Reine. Votre quiétude se trouvait lorsque vous preniez le temps de faire du tricot pour habiller des Barbies. Fan de Supertramp, vous adoriez les maths, sauf les rédactions. Vous n'aviez aucune idée, aucune inspiration. C'est dingue.
C'est vrai, je vous le confirme.
Incroyable.
Laurent Gounel, bosseur, oui, vous avez étudié à Dauphine. D'ailleurs, vous vous êtes fait repérer par une agence de mannequins et vous avez même fait une séance photo à l'époque. Vous avez refusé ensuite de continuer dans le mannequinat.
Incroyable.
C'était une erreur de jeunesse, on va dire.
Non, pas du tout.
Non, vous auriez pu.
Évoquons à présent votre bien-être actuel, votre ivresse, votre famille. Inséparable avec votre épouse et vos deux enfants, famille fusionnelle, vous adorez danser avec votre fille aînée. Votre enthousiasme se voit quand vous mangez un petit peu de chocolat aussi. Et vous êtes capable d'en manger tout le temps. D'ailleurs, vous cachiez même des plaquettes dans votre bureau. Je balance.
Vous êtes décidément très bien renseigné.
Mais c'est d'autant plus étonnant que Laurent Gounel a une ligne de jeune homme.
Ah mais c'est...
Non mais c'est hallucinant, je ne sais pas comment vous faites, c'est un miracle.
Laurent Gounel, sensible, loyal, fidèle...
idéaliste contemplatif. Ce que vous n'avez jamais voulu contempler, c'est la télé. Vous n'en avez pas eu pendant 30 ans. Vous venez d'en acheter une, mais juste pour regarder des séries dont Downton Abbey, dont vous êtes fan.
Totalement.
Vous aimez repousser vos limites, vous confronter à vos peurs pour aller mieux. Jeune, vous aviez le vertige, vous avez donc fait du parapente. Vous étiez timide, vous avez fait du théâtre. Votre petit plaisir, votre assiette remplie de quartier d'orange le matin avec votre pain petit épeautre. Il n'y a pas
très chic.
Une véritable abondance dans votre cuisine. Vous savez cuisiner trois choses. Les légumes vapeur, les soupes et la tarte aux pommes.
Ouais, c'est déjà bien.
Ben oui.
Une belle trilogie.
Pas mal. Alors, vous n'aimez pas le bricolage, ça vous met hors de vous et vous êtes surtout incapable de reconnaître les gens. Vous êtes capable, par contre, de dire bonjour quatre fois à la même personne.
Pareil. Pareil, on est deux.
Je sais, Philippe. Oui.
Très intuitif, Laurent Gounelle. Vous êtes capable aussi de tout expliquer à n'importe qui de manière simple. Et surtout, et là, on va rentrer dans le vif du sujet, vous arrivez à sentir ce qu'il va se passer.
Non.
Et oui, vous ressentez les choses. La preuve, il y a quelques années, votre fille vendait des tickets de tombola. Vous en avez acheté deux. Le jour J, vous dites à votre épouse, on va gagner le gros lot. Et tu vas voir, ce sont nos numéros. Et en effet, vous avez gagné le premier prix. Vous pouvez
c'est
donc lire l'avenir.
C'est vrai ? C'était quoi le premier prix ? C'était quoi le gros lot ?
C'était un voyage à Disneyland.
Non !
Oui.
Et vous jurez que vous n'avez pas triché ?
Ah non, je vous assure.
Non, mais vous êtes un petit peu médium.
Ah, c'est pas un petit peu, c'est énormément
non,
médium. Bravo.
Les chiffres du loto.
Ouais, je dirais que c'est surtout ma fille en fait, qui avait choisi, oui. Qui avait choisi le bulletin.
Oui. Mais ah, vous avez incroyable. Aussi
mais,
ce don.
Mais en fait, j'ai senti la veille que, bah, qu'en effet, on allait gagner, ce qui m'embêtait un peu. Quoi.
Alors, parfois, vous ne voyez pas les choses venir, comme à l'âge de 18 ans, quand vous êtes allé voir votre sœur aux États-Unis, elle vous a demandé si vous pouviez repartir avec une valise à elle, en France. Vous prenez l'avion, vous êtes arrêté par la douane, et les douaniers ouvrent la valise. Je rappelle que c'est la valise de votre sœur, et là, ce n'était que des sous-vêtements.
Non.
Eh oui,
mais
vous avez dû expliquer.
Un petit moment de solitude.
Mais pourquoi elle voulait ramener cette valise en France?
Parce qu'elle s'apprêtait à retourner vivre en France, elle avait tellement de bagages qu'elle me dit, écoute, ça t'ennuie pas, tu me prends une de mes valises, et comme ça fera ça de moins à transporter.
Non, mais elle avait 15 kilos de culottes.
Faites aussi des soutiens-gorge, des jupes.
Oui, vous des sous-vêtements, Philippe, juste des sous-vêtements. Laurent Gounelle, votre plus grand bonheur, votre plus grand plaisir, oui, on l'évoquait, votre vie de famille, mais surtout tout ce chemin que vous avez construit dans la sérénité. Aujourd'hui, vous avez fait de votre vie l'un des plus beaux combats, finalement, que tous les hommes soient heureux. Vous nous aidez à trouver le bonheur, de l'optimisme. On ne peut que vous dire merci.
Merci beaucoup Hélène Manarino. Vous pouvez nous dire ce qui va arriver à Hélène Manarino ? C'est quoi son avenir, vous qui sentez les choses ?
Non mais je ne suis pas voyant non plus.
Si.
Ouais.
Non, c'est-à-dire en fait l'intuition elle vient sans prévenir. Et d'ailleurs chacun, tout le monde a de l'intuition. Et donc chacun a déjà vécu des situations où je ne sais pas, par exemple le téléphone sonne. Et vous savez qui vous appelle. Même si c'est quelqu'un que vous n'avez pas eu au téléphone depuis 6 mois, vous le savez.
Ouais.
Ça arrive et vous décrochez, c'est la bonne personne.
Ouais.
Donc l'intuition vient sans prévenir et après, en appliquant la méthode que je raconte dans Intuitio, eh bien on peut aller au-devant en fait et donc aller glaner l'information que l'on cherche.
Pour cette méthode, il faut une feuille, un stylo et on va marquer une courte pause et vous allez nous trouver les chiffres du loto pendant la pause. Vous revenez juste
Merci.
Avec nous Laurent Gounelle. C'est le jour ou jamais. Merci beaucoup, Culture Média continue. Merci Hélène Manarino.
Avec plaisir,
à demain.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Laurent Gounelle, qui publie un roman comme il n'en a pas écrit jusqu'ici, même dans le genre. Le titre Intuitio, c'est le mot latin qui veut dire une intuition. C'est un jeune écrivain à qui le FBI confie une mission, découvrir grâce à son intuition qui sont les auteurs, ou l'auteur, parce qu'on ne sait pas, d'incendies, de grandes tours qu'il y a aux États-Unis. Il y a juste quelque chose d'assez étrange, c'est pourquoi ça tombe sur lui ? Parce qu'il n'a strictement aucune intuition. Il se prend des râteaux, il ne s'en rend même pas compte. Il pense que sa voisine le drague, il découvre qu'en fait elle préfère les filles. Pourquoi lui qui n'a aucune intuition, qu'on vient voir pour utiliser sa propre intuition ?
Alors on lui dit que c'est parce que lors d'interviews qui ont été analysées, on s'est rendu compte qu'il était hyper intuitif naturellement. Ce qui est assez vrai, on va dire. Maintenant, il y a une autre raison qu'il découvrira seulement à la fin du livre. Donc vous comprendrez que je ne souhaite pas le spoiler.
D'accord, j'ai bien compris. Mais je me disais que vous allez peut-être en dire plus. Qu'on ne peut pas dire tout ce qui se passe. Il y a trop de twists. Ça pourrait devenir un film ?
Écoutez, je pense que c'est une histoire qui est assez cinématographique. Ouais. Oui, ça pourrait, en effet.
Mais ça va coûter cher.
Je pense que compte tenu de tous les événements qui s'y déroulent, oui,
parce
un sacré budget.
Parce que faire des petits, mettre des photos dans des enveloppes, c'est facile, mais faire brûler des tours, ça va vous coûter un bras.
Voilà.
Ce qu'Hélène Manarino est évidemment vrai, puisqu'elle ne dit jamais rien de faux, vous avez réellement acheté une télévision juste pour regarder des séries ?
En fait, pour regarder les séries ou des films, en fait, là, moi, je regarde pas la télé, j'aime pas ça. Par contre, il me fallait un écran. Enfin, donc, c'est pas vraiment une télé, quoi. C'est un écran pour passer des films et des séries. Et c'est vrai qu'on a découvert en famille Downton Abbey, qui a été diffusé en France, je crois, il y a longtemps.
Hein. Oui.
Mais
on ne s'en lasse pas.
C'est la voix de Margot Barallon que vous venez d'entendre, que je sais. Bonjour, Margot.
Bonjour.
Mais c'est vrai que je trouve que c'est une histoire qui est toute en finesse et qui est intéressante à notre époque où souvent on a besoin de plein d'effets spéciaux, etc., pour que l'attention du spectateur soit accrochée. Et là, il ne se passe pas grand-chose finalement. Et tout est dans la subtilité des relations humaines. Et je trouve ça très, très beau.
Eva Rock également de retour.
Ah oui, et je plus sois.
Elle s'est remise du lapin d'un mètre trente qui court.
J'essaye.
Et vous revenez avec la saison 4 d'un programme qui est à découvrir sur Vice ou alors sur mycanal.fr, la plateforme.
Alors voilà, c'est un programme, c'est pas vraiment une série. Et j'ai pensé à vous, Laurent Gounel, vous qui êtes sensible au travail d'introspection. Ce programme est intitulé Thérapie. Alors ça n'a rien à voir avec la série En Thérapie dont on a beaucoup parlé ici. Sauf qu'il s'agit bien d'un cabinet d'un psychanalyste, un vrai en l'occurrence, pour une séance sous l'œil des caméras. Donc face aux professionnels qui s'appellent Fernando de Amorim, des sportifs ou des artistes comme la chanteuse Suzanne.
Notre bavardage est régi par une règle. Cette règle consiste à que vous puissiez parler comme ça vous vient, à la cantonade, tout n'importe quoi. Et au fur et à mesure, je vais vous accompagner et nous allons tâcher de coudre un beau tissu.
C'est incroyable, je ne connaissais pas cet extrait, c'est comme dans le livre de Gounel. Et Suzanne, elle parle facilement ?
Eh bien écoutez, c'en est presque déconcertant à quel point elle se lance dans le récit de sa vie. Elle est désarmante de sincérité et d'honnêteté. On sent qu'elle a vraiment besoin de vider son sac, notamment quand il est question de ses années d'apprentissage de la danse dans le cadre du conservatoire. Exemple de ce qu'elle a pu entendre.
Quand on dit à une gamine de 14 ans qu'elle est trop grosse, alors qu'elle pèse 45 kilos, on l'abîme. On l'abîme parce que...
Oui.
Pardon.
Mais aucun problème. Qu'est-ce qui vous pousse aux larmes? Quelle est la pensée qui vous pousse aux larmes?
Je pense que c'est le fait de ne pas avoir pu m'exprimer à ce moment-là.
Et on l'a entendu un peu, comment intervient le psy, Eva ?
Alors c'est là que ça devient, que l'exercice devient extrêmement intéressant à regarder, à observer. C'est-à-dire qu'il sait exactement à quel moment et comment il doit intervenir, sur quel mot il peut rebondir. Suzanne, elle a les larmes aux yeux quand elle évoque donc cette histoire au conservatoire. Elle parle de larmes de colère à la suite. Et donc lui va insister, mais délicatement, c'est vraiment très bien fait. Il appuie sur ce ressort de la colère, il va lui demander ce qui l'apaise autant. Et Suzanne, elle va finir par lâcher prise et elle dit « Il y a eu un drame, récit. »
J'étais en cours de danse, en cours de contemporain. C'était la fin de la journée. Il était 19h15, donc presque fin du cours. Et j'ai perdu un ami à ce moment-là qui a fait une rupture d'anévrisme en plein cours. Donc c'était choquant. J'étais en train de lui parler 2 secondes avant. Il y avait le grand miroir en face de moi et au moment où... J'ai voulu lui faire une blague. Bah, je me suis tournée, il était en train de partir, quoi, de convulser. C'est une image que j'ai encore dans la tête et qui est très très ancrée. Et à ce moment-là, les adultes ont continué en fait à être dans ce truc de t'as pas assez travaillé les derniers mois, donc tu mérites pas d'aller à l'enterrement. Ça, je pense que ça a été la chose la plus difficile que j'ai entendue dans ma vie, qu'on me dise que je ne mérite pas d'aller dire au revoir à quelqu'un.
Alors plus que l'histoire dramatique en tant que telle, moi j'ai été bouleversée par la façon dont Suzanne le raconte, qui essaye aussi de mesurer à quel point cet épisode l'a marqué, mais l'a aussi déterminé pour la suite de sa carrière. Et si j'appréciais ce programme aussi, c'est pour cela, c'est parce que ces histoires individuelles, ces histoires intimes, elles nous permettent de réfléchir à nos propres parcours et nous incitent aussi à comprendre l'autre, des épreuves individuelles qui cachent finalement une sorte de, ce que j'appelle de récit collectif au fond, dans lequel nous pouvons tous nous reconnaître. J'ai trouvé ça très réussi. Alors j'ai regardé un autre épisode de cette saison 4, c'est avec Clara Morgan. J'étais un peu moins convaincue parce que sans doute il y a plus de contrôle de soi dans l'histoire de Clara Morgan, là où Suzanne joue vraiment la carte de la sincérité. C'est à voir sur Vice, c'est tous les lundis à 21h ou en rattrapage, comme on dit, sur mycanal.fr. Mais je crois, Laurent Gounel, que vous souhaitiez devenir psychiatre au début de votre carrière.
Quand j'étais jeune, alors, je ne saurais pas vous dire quel âge, peut-être 12, 15 ans, j'étais attiré par ça, sans savoir pourquoi. En fait, j'étais découragé par un médecin de famille qui m'avait dit « Non, il ne faut pas faire ça ».
Donc vous ne l'avez pas fait.
Donc je ne l'ai pas fait finalement.
Mais en revanche, c'est incroyable parce qu'on dirait, Anna qui accouche votre narrateur quand ce psy fait parler Suzanne.
Oui, c'est étonnant. C'est étonnant en effet. Mais c'est ce qu'on disait en antenne tout à l'heure. Il y a les coïncidences très troublantes parfois, qui sont peut-être pas le fruit du pur hasard.
On l'a même dit hors antenne, on l'a même dit à l'antenne. Culture Média continue. Dans un instant, c'est notre deuxième indispensable avec Margot Barallon. Mais d'abord, musique avec une personne très belle et qu'on aime beaucoup ici. C'est Oshi. Et même après, je t'aimerai.
Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Tu sais, la vie ne vaut rien si tes yeux ne sont pas dans les miens. Oh, j'ai du mal à faire le lien. Je deviens pâle sans tes mains. Oh, j'aimerais tout donner pour toi. Je te donne mon corps et puis ma voix. Oh, je pourrais tout voler, je crois. Je t'offre mon or et puis ma joie. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que veulent dire les gens qui vivent en prison? Je t'aime sans la raison, je t'aime à rendre con, je t'aime à ma façon, et même après je t'aimerai, et même après je t'aimerai. Tu sais, souvent je me contiens, tu pourrais être mon grand chagrin. À chaque plaie, j'aurai le médecin. Je t'offrirai mes deux reins. Oh, je pourrais tout brûler pour toi, pour qu'enfin il ne reste que moi. Oh, je pourrais même casser ma croix. De toute façon, je ne crois qu'en toi. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que veulent dire les gens qui vivent imprudemment? Je t'aime sans la raison, je t'aime à rendre con, je t'aime à ma façon.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Laurent Gounelle qui vient de s'acheter un grand écran et qui publie Intuitio chez Calman Levy. Vous aviez le choix, vous pouvez l'acheter bien avant avec le nombre de livres que vous vendez dans le monde. Combien de livres vous avez vendu dans le monde, Laurent Gounelle?
Oh, je sais pas, 5 ou 6 millions.
5 ou 6 millions. Quand on est à mettre un ou, c'est que ça va très très bien. Bonjour Margot Barallon.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Aujourd'hui, vous nous conseillez une série canadienne à voir sur Canal Plus Série ou sur MyCanal dès demain. Elle s'appelle Trickster, c'est bien ça?
Exactement, et je vous emmène en Colombie-Britannique, donc dans l'ouest du Canada. On va retrouver Jared, qui est un ado presque comme les autres, il va au lycée. Et sur son temps libre, eh bien, il fabrique des drogues de synthèse qu'il deal à ses petits camarades de classe pour se faire un peu d'argent. Argent dont il a besoin notamment pour aider son père.
Jared, salut pas, t'arrives pile à temps. J'allais justement m'en boire une petite.
C'est pour le loyer, avec un petit bonus pour les courses. Nourriture, vêtements, mais... uniquement pour ça.
Quoi, bien sûr, tu rigoles. J'ai stoppé les antidouleurs pour de bon, tu le sais bien. Merci. C'est juste le temps que je me retape.
Je sais.
J'ai demandé à mon assistant social qu'il augmente mes indemnités. On verra ce que ça donne.
Alors, vous vous demandez peut-être si Jared peut au moins compter sur sa mère, Maggie. Ouais. Eh bien, pas du tout. Non seulement elle est un peu cinglée, mais en plus, elle a elle-même des petits problèmes d'argent et d'addiction.
Richie, c'est ton dealer? Tu lui dois combien, sans déconner?
Je vais te dire, celle qui s'est fait arnaquer. Eh ben, c'est moi. J'ai acheté sa merde. Il m'a filé ça, de la merde. Je lui ai dit, sérieux, elle me fait rien, ta coke, Richie. Tu me vends de la merde, je te paye pas. Point barre.
Il est pas d'accord avec ta conclusion.
Alors, au beau milieu de cette famille vraiment très équilibrée, débarque Wade, un vieil ami des parents de Jared. Et leur première rencontre est légèrement déconcertante.
Tu dois être le fils de Maggie. Ah, Jared, je te présente mon pote, Wade. Wade, Jared, mon fils. Ouais, je reconnais l'air de famille, en effet.
Tu connais ma mère?
Ouais, ça remonte entre nous. On était inséparables tous les trois.
On m'a jamais parlé de toi.
Ça fait combien de temps que t'es parti? 20 ans?
Presque. C'est marrant, tu ressembles pas du tout à Phil. Par contre, je vois que tu as mes yeux.
Quoi? Je dis que tu as mes yeux.
Voilà donc, Jared est coincé entre ses parents pauvres et paumés et ce nouveau venu qui clame être son père biologique. Et comme si ça ne suffisait pas, il se met aussi à avoir des hallucinations un peu étranges, à voir notamment des animaux qui parlent.
Mon Dieu, Jared, c'est un ado? C'est une série pour ados?
Alors justement, il ne faut pas se faire avoir par le marketing de Trickster qui vend la série comme un teen drama, donc un récit d'apprentissage et un peu fantastique en plus. Moi, en réalité, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que c'est une série sur la société canadienne. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Jared et sa mère sont des autochtones. Tout se passe dans un trou paumé Kitimat où vivent les Aisla, donc un peuple amérindien. Et derrière son intrigue, eh bien, la série montre en fait la réalité sociale qui frappe ces communautés. Elles sont très touchées par les problèmes de drogue, d'alcool, par la pauvreté, on l'a entendu. Et elles doivent aussi constamment défendre leurs terres contre les appétits des industriels.
Tu colles des pubs pour quoi là?
C'est pas des pubs, je suis pas là pour vendre, mais pour éveiller les consciences. Contre l'exploitation gazière. Le gouvernement veut faire passer des pipelines sur des terres indiennes.
C'est pas dit que ça prenne ici. Il y a beaucoup de monde qui compte sur le nouveau terminal pour trouver du boulot.
Donc t'es pour les pipelines?
Non, c'était juste une remarque.
Voilà, et finalement, Trickster, c'est un très bon résumé du Canada aujourd'hui. C'est un pays qui prend conscience, qui a pris conscience récemment du poids de son histoire, des problèmes récurrents de racisme, qui est aussi donc dévoré par ses industries minières et gazières. Il y a un très bon équilibre dans la série entre ce réalisme et puis le surnaturel de l'autre. La série joue en fait sur les mythes amérindiens. Le Trickster, ça désigne un esprit magique qui est très présent dans cette mythologie-là. Vous ajoutez des acteurs très convaincants et vous obtenez quand même beaucoup de bonnes raisons d'aller voir Trickster. C'est une série en 6 épisodes qui sort demain sur Canal Plus Série et MyCanal.
Laurent Gonnel, vous irez voir?
Ah, ça me donne envie, en effet. C'est intéressant, en fait. Bon, déjà, je suis intéressé par la culture amérindienne. Et en effet, bon, là, apparemment, ça met vraiment bien en scène la déchéance de cette culture depuis l'arrivée des Européens qui ont colonisé l'Amérique. Quoi. Ouais. Et j'ai toujours un fond de tristesse quand je pense à ça, d'ailleurs, parce que pour moi, les Amérindiens étaient détenteurs d'une forme de sagesse et je dirais même d'intelligence supérieure. Quoi. C'est évidemment, technologiquement, ils étaient moins développés, donc c'était facile pour les Européens de gagner la guerre quoi, avec leurs armes. Mais ils étaient détenteurs, ces Amérindiens, ils le sont toujours, d'une intelligence supérieure. Et on espère d'ailleurs qu'aujourd'hui, parce qu'on s'intéresse de nouveau à eux, ça va être l'occasion peut-être de découvrir cette intelligence basée sur une relation à la vie qui est très très différente de la nôtre, beaucoup plus respectueuse.
Et ça, la série le montre très bien.
Oui, d'accord.
Je vais redire le nom de la série, c'est Trickster, série en 6 épisodes, c'est demain sur Canal Plus Série et MyCanal. Et on en a parlé dans le journal des médias, il y a un documentaire sur Arte en deuxième partie de soirée, Tuer l'Indien dans le cœur de l'enfant. Merci beaucoup Margot Barallon, à très
Merci
vite.
Merci à vous.
Suite et fin de Culture Média du jour, Laurent Gounel, notre invité. On marque une courte pause et on se retrouve à tout de suite.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Laurent Gounel, il publie son 8e roman chez Calman Levy, son 8e livre, Intuitio. C'est à la fois entre le thriller et, comment je pourrais dire, presque un roman scientifique, parce que ça se fonde sur des bases scientifiques avérées. Vous avez passé combien de temps sur ce roman?
Ah, j'ai passé 2 ans et demi. Deux ans et demi, ça a été long. Alors, déjà, je prends toujours du temps pour écrire mes romans. Il y a un certain travail, mais là, j'ai...
Oh, le premier, vous l'avez écrit en 3 mois.
Ah, le premier,
L'homme
oui.
qui voulait être heureux,
oui,
3 mois, mais ça m'avait frappé.
C'est plus une petite parabole qu'un roman. Quoi.
C'est vrai.
En fait, ce qui est long, c'est bon, à la fois, il faut que je maîtrise le fond. Donc là, en l'occurrence, j'ai dû me former à l'intuition. J'ai dû avoir 4 sessions de 3 jours en tête à tête. Donc c'était très, très, très stimulant et assez fatigant, je veux dire. Mais surtout, après, il y a tout un travail sur l'histoire. C'est là, moi, comme j'écris sous forme de roman, il faut que je trouve l'histoire qui va me permettre de partager les informations, de partager ces savoirs. Et c'est complexe, en fait, de créer la bonne histoire.
Bien sûr, ce qu'il faut que je raconte, il y a plusieurs arches narratives. Je ne peux pas tout raconter ici. On est une émission média, je vais le dire quand même. C'est que cet écrivain, quand même, même, grâce à un concours de circonstances, trouve le moyen d'être invité dans l'émission d'Oprah Winfrey, qui est la plus grande présentatrice, animatrice américaine. Et tout se conjugue, donc il hésite entre faire l'un ou l'autre. Et je ne raconte pas à la fin ce qui va se passer ou pas avec Oprah Winfrey. Je me souviens de ça, puisqu'on parlait de promotion. Quand vous avez écrit « L'homme qui voulait être heureux », à l'époque, vous aviez décidé vous-même de la première campagne de pub, très ciblée. Vous aviez ciblé, pardon de sourire, le magazine Psychologie et le site internet cadreemploi.fr.
Oui.
Mais pourquoi ces deux cibles ?
Non, Cadre Emploi, c'est juste parce que j'avais des amis qui travaillaient à Cadre Emploi.
Ah, ça, donc c'est juste pour leur ça. Faire un petit peu de sous.
Non, Psychologie Magazine, j'avais suggéré ça à mon éditeur de l'époque. Bon, c'était assez naturel puisque c'était un roman initiatique. C'était logique de pouvoir s'adresser aux personnes qui pouvaient potentiellement l'apprécier.
Initiatique parce que vos livres, votre parcours d'écrivain raconte un peu votre vie. On pense à tous vos succès en librairie, mais vous dites que vous avez connu davantage d'échecs, davantage d'humiliations que de succès. Ça, c'est relativement courant. Mais vous dites que ces échecs, ça vous a sauvé la vie. De quelle manière ? Pourquoi vous dites ça ?
Parce que, en fait, le pire dans la vie, c'est de passer à côté de sa propre existence sans se connaître. Mmh. Et finalement, c'est assez facile de assez jeune, se retrouver sur des rails conditionnés par les choix d'études qu'on demande à, en montant c'était à 17 ans, maintenant à 15 ans, on demande à un jeune de choisir son orientation. On est aussi influencé par les parents, par plein d'autres choses. Bref, on ne se connaît pas quand on est jeune, mais on se dessine des rails. Et le risque, c'est d'y rester si jamais ces rails ne vous correspondent pas. Et c'est quand même essentiel dans la vie de se connaître, de savoir ce que l'on veut, qu'est-ce qui est important pour nous dans l'existence, et d'aller dans cette direction, d'avoir ce courage, quoi. Et parfois, ce sont les échecs qui nous y aident.
Vous feriez quoi dans la vie si vous étiez resté sur ces mêmes rails? Vous faisiez quoi à 22, 23, 24 ans, 25 ans?
Moi j'ai commencé ma vie professionnelle comme cadre financier dans une grande entreprise et j'étais malheureux comme la pluie, quoi. Et j'ai très très vite compris que c'était pas pour moi.
Donc vous y seriez toujours? Si
oui,
vous n'aviez pas été malheureux comme la pluie?
Oui, tout à fait.
Dans le livre, il y a d'ailleurs une... Je vais pas dire, ça vient vers la fin, donc je peux pas spoiler, mais il y a une diatribe contre les financiers.
Oui, c'est pas contre les financiers en général, mais contre...
Contre la financiarisation du monde.
Oui, tout à fait.
Ces gens coupés de la réalité qui décident du sort de plein de citoyens, voilà, dans un bureau.
C'est-à-dire autrefois, il y a 50 ans, l'entrepreneuriat était essentiellement familial. Il y avait même un côté paternaliste, alors parfois un peu désagréable par rapport à ça, mais qui était quand même protecteur pour les gens. Aujourd'hui, les entreprises appartiennent souvent à des actionnaires qui ne sont même pas des personnes physiques, qui sont des grandes firmes de placement, des grandes firmes de finance, qui possèdent des entreprises ou parfois ne mettent jamais les pieds. Et donc évidemment, on ne prend pas les mêmes décisions qui impactent la vie des salariés, des gens, quand on ne connaît pas les gens, parce qu'on n'est pas sur place, on est à 5000 km.
Puisque vous dites de pas connaître les gens, autre déclaration incompréhensible que j'ai trouvée de vous, c'était dans le Télégramme en 2018, vous dites « J'ai réalisé que si j'avais choisi de travailler dans la finance, c'était par peur des gens ».
Oui, parce que quand j'étais jeune, j'étais extrêmement peureux et timide. Et ma grande peur dans l'existence, c'était les autres.
Quel rapport avec la finance ? C'est qu'on ne voit que des ordis ?
Non, c'est parce qu'en fait, je m'étais dit, si je trouve un métier dans ce domaine, eh bien, je serais planqué dans un bureau à étudier des chiffres, ce qui était assez vrai d'ailleurs.
Ouais.
Donc je verrais peu de gens. Et comme les gens me faisaient peur, j'étais un peu planqué par rapport à ça. C'est ce qui a guidé mon choix, quoi.
Et dans la même interview, c'est une autre interview, c'était dans West France, mais c'est la même année. Quelqu'un parle de vous en bien. Il dit, il pourrait se contenter de ses énormes succès d'édition, mais l'homme, donc c'est vous, Laurent Gounelle, a besoin d'aller vers les autres pour expliquer, témoigner, engager le débat, vous donner encore et toujours des conférences. Pour quelles raisons?
En fait, je donne des conférences gratuites, hein, c'est pas mon métier,
en plus,
c'est d'écrire. En fait, je pense que chacun de nous a une mission sur Terre, et la mienne a clairement un lien avec la notion de partage, quoi. Moi, je suis un pédagogue né, j'aime expliquer les choses, prendre des choses parfois complexes, les rendre simples à travers mes histoires, à travers mes romans, et ça, c'est ma mission sur Terre, je le considère ainsi.
Votre mission sur Terre, le mot est fort.
Oui, mais je pense que chacun a une mission. Chacun a une mission et chacun a les talents qui vont de pair. Alors parfois, ils restent cachés pour la plupart des gens et ça vaut le coup justement d'entrer en introspection, apprendre à se connaître pour découvrir quels sont nos talents et quelle est notre mission.
Donc j'imagine que vous attendez comme nous avec impatience la fin du confinement, des masques et le retour des grandes salles et des conférences. Merci beaucoup Laurent Gounel. Je rappelle le titre de votre nouveau roman, c'est un thriller, c'est Intuitio, c'est chez Calvin Levy. Merci d'avoir été avec nous. Demain, dans Culture Média, je vous donne pas le programme, vous devinez tout, mais je vais quand même le dire pour les auditeurs qui n'ont pas votre intuition. Nous serons avec la journaliste politique Nathalie Saint-Cricq pour parler des émissions politiques à la télévision et également de son tout premier roman sur le dernier amour de Georges Clemenceau. Et puis une violoncelliste, la franco-belge Camille Thomas pour Voice of Hope, La Voix de l'Espoir, son nouvel album. Juste après le flash, c'est Anne Roumanoff dans l'émission Ça fait du bien. Je vous dis à demain. Je vous dis merci encore, Laurent Gounel.
Merci, Philippe.
Bonne journée sur
Culture Média. Je ne sais pas combien d'heures j'ai passé à regarder des séries. Et vous d'ailleurs. Vous êtes férus de séries, vous ne savez plus quoi regarder, vous voulez tout savoir sur l'envers du décor, ou vous adorez simplement qu'on vous raconte des histoires.
Découvrez Sériland, le podcast d'Europe 1 Studio présenté par Eva Rock.
Sériland, c'est le podcast qui vous conseille les meilleures séries du moment. Vous pouvez le retrouver sur Apple Podcasts, Deezer ou sur votre plateforme habituelle d'écoute.